aperçut soudain, devant lui, une voiture avec une roulotte. C'était une très vieille voiture couverte de poussière. Les roues arrière de la roulotte n'avaient plus de pneus. Elle devait être là depuis pas mal de temps. Un tuyau de poêle en fer blanc sortait du toit pointu et laissait passer un mince filet de fumée. Tout autour étaient disposés des paniers et des poteries. Sur le flanc de la roulotte, qui faisait face à la route, pendaient des chapelets de calebasses d'un rouge velouté, d'un orange vif ou d'un jaune pâle. Cet étalage avait dû rester là tout l'été pour attirer les touristes qui revenaient des collines. En s'approchant de la roulotte, par derrière, il aperçut à travers les rideaux de toile l'énorme silhouette d'une femme aux cheveux noirs. Il se demanda un instant comment elle pouvait vivre dans un espace aussi réduit. Cela le faisait penser à cette bonbonne qu'il avait repêchée un jour dans la rivière Sunflower. En plongeant d'un tronc d'arbre, il avait touché des mains une grosse fiasque gisant sur le sable du fond. Il avait fixé une corde à l'anse de la fiasque et, avec l'aide d'un copain, il l'avait sortie de l'eau. À l'intérieur se trouvait un énorme poisson-chat. Ils se demandèrent comment il avait pu faire pour y rentrer. Il était bien trop gros pour passer par le goulot de la bouteille. Il avait dû y pénétrer tout jeune et avait grandi à l'intérieur. Trop gros maintenant pour en sortir. C'est à cela qu'il pensait en regardant cette grosse femme dans sa roulotte. Ses copains avaient voulu briser la bonbonne et faire cuire le poisson pour le dîner. Mais cette idée lui déplaisait. Il voyait un maléfice dans ce poisson-chat qui avait grandi dans une bouteille. Il avait commencé à dépasser la roulotte lorsqu'il croisa le regard sombre de la femme braquée sur lui à travers les rideaux de toile. Il s'arrêta sur le bord de la route et dit
« Salut !»
Elle sortit sur la petite plateforme. Il entendait les planches grincer sous son poids. Elle se tint au-dessus de lui, clignant les yeux dans le soleil. Elle avait un visage semblable à celui du poisson-chat, foncé et aplati. Des poils drus au-dessus de la lèvre supérieure. Ses bras étaient croisés sur sa grosse poitrine molle. Elle était vêtue d'une combinaison de soie bon marché. Ses jambes et ses bras bruns étaient nus et flasques. Il fut surpris de voir qu'elle avait même quelques poils noirs sur la poitrine, que dévoilait l'encolure de sa combinaison. Il n'avait encore jamais vu une femme avec des poils sur la poitrine. Cela le faisait penser à cette hermaphrodite qui s'exhibait dans une baraque de foire à Dodge City. L'aboyeur montrait du doigt cet homme-femme, une partie complètement femelle, l'autre complètement mâle, à ce qu'il disait. Et pourtant, cela ne semblait guère possible.
Salut, vous m'achetez quelque chose ?
Je n'ai pas d'argent, mais je pensais que vous pourriez me donner quelque chose à manger.
La femme ne dit rien. Elle clignait des yeux dans le soleil et gardait un silence bienveillant. Il regardait les colliers de sauge, de fenouil, d'ail et de poivron séchés qui pendaient dans l'embrasure de la porte. Il pensa à une nourriture riche, bien grasse. Il sentit l'eau lui monter à la bouche. La femme rentra dans la roulotte. Il l'entendait remuer à l'intérieur comme le poisson-chat gigotait dans sa bouteille, qu'ils avaient vidée de son eau. Une vilaine action qu'ils avaient faite là. Ils étaient restés accroupis à le regarder se débattre, jusqu'à la fin. La femme revint sur la plateforme.
« Je te donne une pomme. »«
Oh, merci. »
Il tendit la main et vit que sa paume était luisante de sueur sale. Il l'essuya rapidement sur son pantalon de velours, puis l'attendit à nouveau. La pomme était d'un rouge sombre, comme du vin. Rien qu'à la toucher, il aurait pu dire le goût qu'elle avait. La femme s'assit sur la plus haute marche de la roulotte.
« Asseyez-vous. »
« Merci. »
Il s'assit sur la marche du bas, porta la pomme à sa bouche et en fit craquer la dure peau rouge. Le jus sucré en sortit et ses dents s'enfoncèrent dans la chair ferme et blanche du fruit. « C'est comme un acte d'amour, » pensa-t-il en broyant la peau et la pulpe entre ses dents. Sa langue savourait le jus sucré. Il se lécha les lèvres qui s'ouvrirent en un sourire sensuel. La pulpe fondit dans sa bouche. Il essaya de ne pas l'avaler pour faire durer le plaisir, mais elle fondait entre ses dents. Elle devenait liquide et descendait jusqu'à sa gorge. Il n'y pouvait rien. C'est comme l'acte d'amour, pensa-t-il à nouveau. On essaie de le faire durer et durer, mais arrive un moment où on ne peut plus se retenir. Il faut aller jusqu'au bout, il faut finir. Et après, d'une certaine manière, on se sent floué.
C'était bon, je n'ai jamais mangé une pomme aussi bonne.
C'est parce que tu as faim ?
Oui, peut-être.
Elle retourna à l'intérieur. Il vit qu'elle se penchait à nouveau sur le panier et qu'elle prenait une autre pomme. Bien. Il sortit son couteau de sa poche et racla les derniers morceaux de chair blanche qui restaient sur le trognon pour bien lui montrer qu'il avait vraiment faim. Elle réapparut, mais ne lui offrit pas la deuxième pomme. C'est elle qui la mangea en ouvrant ses immenses mâchoires et en mâchonnant comme un cheval. Il détourna les yeux. Tout à coup, il se sentit très fatigué. Ses jambes étaient douloureuses. Il faisait bon être assis là au soleil, boule ronde et orangée, juste au-dessus de la ligne pourpre des collines boisées. Le vent se leva sur les champs, il faisait s'incliner les hautes herbes et soupirer les feuilles des saules. Il pensa à cette femme, qui était restée là tout l'été, dormant la nuit sur sa couchette au bord de la route, son grand corps brun de femelle étendu sous la lumière de la lune, les bras écartés pour accueillir le vent frais comme un amant, la chair moite de sueur. Il la regarda à nouveau et se sentit obligé de parler pour retenir le sourire stupide qui lui venait aux lèvres.
« Quelle heure est-il ?»
Elle répondit par un vague grognement. Il remonta la ceinture de son pantalon.
« Votre homme est parti à la ville, pas vrai ?»«
Ouais, avec mon fils. Ils sont partis en ville pour se saouler la gueule. »
Elle émit un petit rire.
« Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ?»
Elle souffla du nez, retroussa ses lèvres et le regarda. Mais ses yeux ne s'arrêtèrent pas sur son visage. Ils descendirent le long de son corps. Il pouvait presque les sentir sur lui. Il se renversa en arrière comme pour répondre à son étrange caresse et appuya ses épaules contre les rondeurs de ses genoux. Ils étaient mous. On aurait dit sans os. Il se demanda quel âge elle pouvait avoir. 45 ? 40 ? Peut-être même un peu moins. Elle a parlé de son fils, parti se saouler avec son père. « Il doit avoir à peu près mon âge, » pensa-t-il. Mais les gens du Sud, au teint mat, deviennent adultes très tôt.
« Qu'est-ce que vous allez faire ?»«
Moi, je vais me faire à dîner. »«
Qu'est-ce que vous avez pour le dîner ?»«
De la viande. »«
Un bon morceau ?»«
Ouais, un assez gros morceau. »«
Assez gros pour deux ?»«
Je sais pas. Il faut que j'en garde pour mon fils. »«
Il aura sûrement mangé en ville. »«
Je sais pas. »
Il sourit et plissa les yeux. Mais elle regardait ailleurs. Elle gardait les yeux fixés sur la boule du soleil qui dardait maintenant de larges rayons de lumière orange pâle entre les nuages d'un gris duveteux. Cela faisait penser à une robe que sa sœur avait portée un dimanche de Pâques. Les rues pavées d'or. Ah oui, des raies noires. L'escalier de secours ? Non, les rails du viaduc. Et le train qui passe dessus en sifflant. Sa mère, comme sa voix est claire. « Irma, ne reste pas près de la fenêtre !» La poussière vole à l'intérieur. La confirmation. 5 œufs peints dans un coin. Bleu pâle et rose et jaune et vert. Des œufs durs. Est-ce qu'il les a mangés ? Dieu que c'est bon les œufs bien durs. Le blanc se détache tout seul du jaune. Le jaune, balle ronde, riche et grenue. Une pâte qui se colle aux dents, son goût reste longtemps dans la bouche. Il aurait bien aimé manger un œuf dur.
J'ai encore un peu faim.
Dans un brusque mouvement, elle leva la main, lui passa les doigts le long de la nuque, sous le col de sa chemise. À ce contact, il eut un mouvement de recul, mais il garda les yeux fixés sur son visage.
Tu as la peau aussi douce qu'une fille.
Merci.
Quel âge as-tu ?
19 ans.
Elle grogna, comme si elle avait été piquée par une épingle. Elle se leva et lui lança un léger coup de pied taquin avec le bout de sa pantoufle poussiéreuse.
Allez, t'es trop jeune.
Qu'est-ce que vous voulez dire, trop jeune ?
19 ans, c'est juste l'âge de mon fils. Vaut mieux que tu t'en ailles.
Il leva les yeux vers elle et comprit que ce n'était pas la peine d'insister. Grande, lourde, sombre. Elle se tenait dans l'ouverture de la porte. Elle fronçait légèrement les sourcils en regardant le soleil. Vieille métèque dégueulasse. Ce genre de bonne femme s'impose à elle-même de petites règles, plus sacrées que la loi sainte. S'il avait répondu 21 ans, ou peut-être même 20, ça aurait pu coller. Mais pas 19, parce que c'était l'âge de son fils.
Oh bon.
Il se leva d'un mouvement souple, brossa son pantalon et reprit son sac sur l'épaule. Il se sentait plus léger. Il descendit vers la route en riant et regarda une dernière fois par-dessus son épaule. La voiture et la roulotte se détachaient distinctement dans la lumière dorée. Les champs s'assombrissaient et le crépuscule devenait grisâtre. On ne voyait plus qu'un bout de soleil orange au sommet des collines, dans un grand embrasement. Ses yeux se posèrent à nouveau sur le toit de la roulotte. Il vit un mince filet de fumée s'échapper du tuyau et entendit des bruits de casseroles. La vieille était à l'intérieur, comme un poisson-chat pris au piège dans une bouteille. Elle se préparait un dîner qu'elle mangerait toute seule. Les coudes appuyés de chaque côté du plat de fer blanc, les épaules voûtées. Et elle ferait passer son dîner avec un café noir, très fort et brûlant. Une viande riche, bien grasse, un bon morceau, vieille salope. Enfin, elle mourrait bien un jour, d'une vilaine maladie, comme le cancer, qui avait peut-être déjà commencé son travail dans sa chair brune. Bien fait pour cette vieille salope radine. Il reprit sa route, l'air était frais, le vent s'était levé. Devant lui apparaissait la forme blanche de hauts bâtiments sous la pâle lumière jaune. Il gardait encore dans la bouche le goût de la pomme qu'il avait mangée, fraîche et sucrée. Et peut-être que c'était mieux ainsi, d'avoir ce goût-là dans la bouche, le goût propre et blanc d'une pomme.
Bon, on se rassure comme on peut, hein.
Ben voilà.
À défaut de viande, on mange de la pomme.
Voilà. Comment on dit ça, à défaut de grive, on mange des merdes.
Bravo, Mireille. Non, mais je te disais là, hors micro, que c'est très bien observé quand même. C'est tous ces personnages en marge, comme ça, qui forment des tableaux en soi. Hein. C'est vraiment la description, elle est très bien faite. Hein.
Alors, à la fin de l'été 1937, Tennessee Williams prend sa distance avec sa famille et il va quitter Saint-Louis sans regret, hein, car la ville lui laisse de bien mauvais souvenirs. Alors, dans le même temps, sa sœur Rose, qui est schizophrène, est déclarée mythomane et dépressive par sa mère Edwina, après qu'elle ait dénoncé son père pour attouchement sexuel.
Oui, c'est un drôle de diagnostic. Hein. Elle dénonce son père pour attouchement et elle est schizophrène.
Voilà, mais donc à l'époque, voilà, c'était des choses qui n'étaient pas forcément entendables. Hein. Alors sa mère refuse donc obstinément de donner crédit aux propos de sa fille et elle l'a fait interner dans un sanatorium, puis à l'hôpital. Et ces événements plongent Thomas Williams dans une peine profonde qui rejaillira sur son inspiration théâtrale dans les années 50.
Oui, parce qu'il y a des personnages équivalents tout à fait de sa sœur qui apparaîtront dans les pièces et
voilà,
les nouvelles,
c'est ça. Hein. Par exemple, notamment un texte qui s'appelle « Soudain l'été dernier », ouais. Hein, voilà, où le rôle de la sœur est
clairement Rose, oui.
Par Elizabeth Taylor.
Tout
voilà,
à fait.
Et il y a Montgomery Clift aussi. Là.
Encore.
Et Catherine Hepburn.
Pas mal la distribution.
Donc il va partir vivre à la Nouvelle-Orléans où il mène une vie de bohème, exerce des petits métiers et connaît ses premières expériences homosexuelles. Il écrit des pièces en un acte et signe en septembre un contrat avec Audrey Wood qui devient son agent littéraire et le restera pendant plus de 30 ans. Au début de 1940, il va s'installer à New York. Il n'est pas très fortuné, mais il écrit beaucoup et traîne la nuit dans les bars de Times Square. En février, il est présenté au public avec succès la première de ses pièces montées à New York, The Long Goodbye. En 1941, lorsque les États-Unis entrent en guerre, Tennessee est réformé en raison de son dossier psychiatrique, de son homosexualité, de son alcoolisme et de ses troubles cardiaques et nerveux.
Oui, ça fait beaucoup.
Ça fait un bagage. Hein,
pour l'armée, oui.
Voilà. Puis même pour lui apporter.
Voilà.
Surtout qu'il est encore jeune. Voilà. En janvier 1943, sa sœur Rose va donc subir une lobotomie frontale, événement qui marquera profondément son frère.
Oui, il va culpabiliser en fait toute sa vie hein, à propos de cette sœur qui était peut-être tout juste fantasque, ou, mais bon, un peu hors ligne, et du coup, ça va lui coûter cher à la sœur.
Et donc à l'époque, il y a quand même, c'était une pratique assez courante. Hein, voilà, dès que les gens étaient pas dans les clous comme le souhaitaient les familles.
Hop, une petite lobotomie. Voilà. Et là, de mémoire, j'avais entendu une émission sur France Culture. Je crois que la lobotomie avait été, alors on met des guillemets, offerte. C'est-à-dire que c'était gratuit pour lancer les lobotomies. Mmh. Donc la mère de Rose, la mère de Tennessee Williams et de Rose, avait sauté un peu sur l'occasion. Mmh. C'était gratuit, donc on essaye.
Alors... les cinq années à venir vont marquer un véritable tournant hein, dans la vie de Tennessee Williams et conduire celui-ci vers la gloire. Alors, il va se rendre à Hollywood. Il est engagé par la Metro-Goldwyn-Mayer pour faire l'adaptation cinématographique d'un roman à succès. Alors, cette tâche de réécriture l'ennuie plutôt hein, et il écrit son propre scénario, très largement autobiographique, que la MGM va refuser. Il en fait une pièce, La Ménagerie de Verre, où il met en scène sa mère et sa sœur. Celle-ci est d'abord montée à Chicago en 1944, puis à New York en 1945. Il connaît ainsi, à 34 ans, une célébrité soudaine marquée par la récompense du New York Drama Critics Circle Awards.
Oui, c'est vraiment le théâtre, hein, on s'aperçoit de ça, hein, qui fait son succès mais précoce, parce qu'après, on verra vers la suite de sa vie, il va rester les dernières 20 années de sa vie, il restera un peu dans l'ombre de ce qu'il a été finalement, tellement le succès est précoce.
Donc maintenant, je vous propose d'écouter une nouvelle justement écrite vers 1945 qui s'appelle Les Cochenilles. Et donc cette nouvelle a fait partie du manuscrit Pieces of Youth, publié en 1980 dans la revue Esquire.
Billy Fuxworth pestait depuis des jours contre les cochenilles qui tissaient de grands délaches d'une étoffe transparente et grise sur les arbustes touffus qui entouraient leur chalet d'été sur le cap. Sa femme, Clara, avait ses propres rêves et ses propres préoccupations. Elle l'avait écouté rouspéter sans y prêter attention. De temps à autre, elle lui jetait un regard sombre. « Si seulement il savait, » pensait-elle. Il se moquerait bien de ses cochenilles. Une seule fois, elle avait vaguement demandé, la tête ailleurs,
« Des cochenilles, qu'est-ce que c'est que ça ?»
Mais elle n'avait pas vraiment écouté ses explications. Il avait dû parler pendant un bon moment parce que l'esprit de Clara avait eu le temps de décrire une large orbite dans ses réflexions personnelles avant qu'il ne ramène son attention dans l'immédiat en posant brusquement sa tasse à café sur la soucoupe et en s'exclamant sur un ton irrité.
« Arrête de répéter « oui, oui, bon Dieu » alors que tu n'écoutes pas un mot de ce que je te raconte. »
Je t'écoute. Tu étais encore en train de maugréer comme une vieille femme contre tes cochenilles. Qu'est-ce que tu veux? Que je reste là, assise, les yeux béants d'admiration, pendant que...
Bon, tu m'as demandé ce que c'était, j'essayais de t'expliquer, c'est tout.
Je m'en fiche. Peut-être que toi, elle t'ennuie, mais moi, elle ne me dérange pas du tout.
Cesse de faire l'enfant.
Il y avait une terrasse ensoleillée à l'arrière de la villa. Clara se reposait l'après-midi dans une chaise longue, tout au plaisir de sa réflexion personnelle pendant que Billy travaillait sur sa machine à écrire, juste à côté, sous la véranda. Pendant ces 5 dernières années, Clara n'avait jamais pensé à l'avenir. Mais leur avenir était devenu maintenant un problème réel, car elle détenait depuis peu des informations concernant Billy, auxquelles Billy lui-même n'avait pas accès. Billy n'était pas censé savoir ce qui lui était arrivé. Non, il ne le savait pas. Elle en était sûre. Ou s'il savait, c'était seulement dans la zone de la subconscience, où il se dissimulait la vérité, soit parce qu'il n'osait pas l'affronter, soit parce qu'il refusait de l'accepter. Voilà pourquoi sans doute il avait eu cet été-là, ce comportement si enfantin. Pourquoi il restait à pester comme un idiot contre ses chenilles, alors qu'on était déjà à la fin de l'été, qu'ils allaient bientôt rentrer à New York, et qu'il était presque certain que Billy ne reviendrait jamais dans cet endroit. Elle-même, y reviendrait-elle? Dieu seul le sait. Alors que ces cochenilles dévorent les arbres et la maison et la plage, qu'elle dévore tout le cap et l'océan entier. Peu lui chaud. Mais un après-midi, vers 3 heures, elle sentit se répandre autour d'elle une odeur de fumée. Elle observa les alentours et aperçut Billy qui, avec une torche de vieux journaux, mettait le feu aux toiles grises des cochenilles. Il était là, dans son short kaki, brandissant sa torche enflammée vers les hautes branches des arbustes rabougris, où les cochenilles avaient tissé leur maison. Il y en avait des milliers et des milliers, et il y mettait le feu. C'était enfantin, c'était stupide. De la terrasse où elle se trouvait, Clara pouvait voir que les cochenilles avaient étendu leur royaume d'arbre en arbre sur tout le domaine. Et que maintenant, à la fin de l'été, ils étaient presque tous entièrement recouverts de cette matière grise qui ravageait leur feuillage. Et voilà que Billy engageait tout seul avec sa torche de papier un combat dérisoire contre ces myriades d'insectes. Elle se leva et poussa un cri de dérision.
Mais qu'est-ce que tu fabriques, Billy ?
J'extermine les cochenilles.
Tu deviens fou, il y en a des millions.
Ça m'est égal, je vais toutes les brûler avant que nous partions d'ici.
Renonçant à le raisonner, elle retourna s'asseoir dans sa chaise longue. Billy poursuivit son carnage tout l'après-midi. Cette odeur de fumée était fort désagréable. Mais Clara savait qu'il était inutile de protester. Ce qu'elle avait de mieux à faire était de boire, ce qu'elle fit. Elle alla se préparer un thermos de gin glacé qu'elle sirota tout l'après-midi pendant que son mari attaquait les insectes avec ses torches de papier. Vers 5 heures, elle commença à se sentir d'une humeur joyeuse et insouciante. Ses rêves d'avenir devenaient presque euphoriques. Elle se voyait déjà telle qu'elle serait l'hiver prochain, dans ses riches vêtements de deuil, un tailleur noir bien coupé, orné de quelques bijoux sévères, et une cape de fourrure noire. Elle se voyait escortée de chevaliers servants aux traits encore indistincts, bercée par le ronronnement rassurant de leur voiture, qui se glisserait à travers les rues glacées pour aller d'un restaurant à un théâtre, d'un théâtre à un appartement. Non, pas encore une boîte de nuit. Pas si tôt. Après, oui, son attitude était saine. Elle n'irait pas faire semblant d'éprouver des sentiments qu'elle n'éprouvait pas. De la pitié, certes, elle avait du chagrin pour lui. Mais quand l'amour est mort depuis 5 ou 6 ans, pourquoi se forcer à penser que c'est une perte irremplaçable? Le soleil allait se coucher quand le téléphone sonna. C'était si rare à présent que sa sonnerie la fit tressaillir. Tout le cercle de leurs intimes s'était éloigné d'eux. Chacun retournait à ses propres soucis, comme des acteurs qui se dispersent et retrouvent leur vie personnelle une fois le rideau tombé, à la fin de la représentation. Elle prit son temps pour répondre. Elle se doutait que cela devait être le docteur. Et c'était bien lui. Les encouragements d'un médecin sont d'habitude plutôt décourageants.
Alors, comment ça se passe, ma chérie ?
Comment se passe quoi ?
Bah, votre escapade hors des vapeurs empoisonnées de la métropole.
Si c'est une question sérieuse, cher docteur, je vous fais une réponse sérieuse. Votre malade a une telle nostalgie de ces vapeurs empoisonnées qu'il est en train d'en fabriquer ici.
Quoi ? Quoi ?
Est-ce que la ligne est mauvaise ? Vous ne m'entendez pas ?
Mais je vous entends très bien, mais je me demande ce que vous voulez dire.
Eh bien, je vais vous expliquer. Billy, votre cher malade, est en train de polluer l'air de notre retraite estivale en faisant brûler des espèces d'insectes appelées cochenilles. La fumée est suffocante. C'est pire que l'oxyde de carbone dans un embouteillage sous un tunnel. Je tousse, j'étouffe, mais il continue quand même.
Bon, au moins, il est encore alerte.
Ah bah ça, on peut le dire. Vous voulez lui parler ?
Non. Dites-lui seulement... Non, ne lui dites pas que j'ai appelé. Il pourrait se demander pourquoi.
Mais pourquoi diable ne lui avez-vous rien dit ? Qu'il sache au moins, et...
Elle ne savait pas comment terminer sa phrase. Alors elle cria dans le téléphone.
Je ne peux plus supporter cela. C'est au-dessus de mes forces. J'ai la tête remplie d'horribles pensées. Je calcule le temps que j'aurai encore à supporter tout ça avant la fin.
Calmez-vous, mon petit.
Ah, c'est facile à dire. Et ne m'appelez pas votre petit. Je suis pas votre petit. Je deviens folle. S'il n'arrête pas de brûler ses cochenilles, je rentre en ville, seule. Au moins, je ne verrai plus ces arbres malades, ni ces torches de papier, ni l'autre qui titube dehors. Il faut que je raccroche. Il revient vers la maison.
Clara, ça n'est pas facile de se montrer humain, mais pour l'amour de Dieu, essayez de...
Vous pouvez me dire comment ? Me faire une ordonnance qui réglera le problème ?
Elle jetait un coup d'œil par la porte-fenêtre et suivit le long retour de Billy vers la terrasse que le soleil avait désertée.
Clara, l'amour peut prendre différentes formes. Votre esprit doit être rempli d'idées bizarres dont vous avez honte et que vous chasserez une fois que l'épreuve sera passée.
Ah, là, vous marquez un point. Je suis pleine d'idées bizarres en ce qui concerne mon avenir.
Vous avez parlé d'une ordonnance ?
Oui, qu'est-ce que vous me prescrivez ?
Des souvenirs. Essayez de vous rappeler comment c'était avant.
Ça me semble tout à fait impossible.
Bah, à première vue, oui, mais essayez.
Merci, je vais déjà essayer de respirer un peu. Si seulement le vent de la mer pouvait chasser toute cette fumée.
Lorsqu'il revint sur la terrasse, il était là. Il avait l'air exténué. Il s'était brûlé à plusieurs endroits et s'était appliqué sur ses brûlures des compresses humides de bicarbonate de soude qui avaient une odeur désagréable. Il prit l'autre chaise longue, il la tira un peu à l'écart et il la plaça de façon que Clara ne puisse voir son visage.
Tu abandonnes ?
Plus de papier, plus d'allumettes.
Il n'avait plus rien à se dire. La marée était haute et l'eau clapotait presque à leurs pieds.
Les cochenilles.
Puis elle répéta tout.
Les cochenilles.
Pourquoi cries-tu ? Il n'y a pas de quoi crier. Une plaie sur la végétation, c'est comme une plaie sur son corps.
C'est juste un endroit que nous avons loué pour l'été. Nous n'y reviendrons jamais.
Un homme dans sa jeunesse, c'est comme un endroit loué pour l'été.
Il avait parlé d'une voix si douce et si lasse qu'elle ne l'entendit pas.
Comment ? Qu'est-ce que tu dis ?
Il répéta un peu plus fort. Alors, elle sut qu'il savait. Leurs chaises étaient loin l'une de l'autre et le soleil était en train de disparaître. Un couple de vieux compagnons regardait tomber la nuit et leur instinct leur commandait de se rapprocher l'un de l'autre. Elle se leva en tremblant et tira sa chaise longue près de la sienne. Ses mains brûlées étaient posées sur le bras de la chaise longue. Au bout d'un moment, une lune romantique se leva à l'horizon qui vint relayer la garde du soleil. Alors, elle posa sa main sur la sienne. Un vent froid, chargé d'appréhension partagée, vint balayer la terrasse baignée par le clair de lune et leurs doigts se mêlèrent. Clara pensait à la passion qu'ils éprouvaient autrefois l'un pour l'autre. Le temps l'avait consumé, comme Billy avait tenté de consumer les cochenilles de cette résidence d'été, où, non, ils ne reviendraient jamais, ni ensemble, ni séparément.
Bon, ça se termine par une belle métaphore sur le temps. Enfin, belle, je ne sais pas, mais... tout passe, tout lasse.
Voilà. Alors, le succès va se confirmer hein, 2 ans plus tard avec un tramway de mes désirs, dont vous entendez la musique du film en fond, là. Donc c'est Elia Kazan hein, qui est le metteur en scène et ça va marquer les débuts d'un jeune comédien de l'acteur studio, Marlon Brando.
Eh oui, qui joue le rôle de Kowalski.
On se rappelle de lui dans son t-shirt, moulant, plein de sueur.
Plein de muscles.
Alors grâce à cette seconde création, Tennessee Williams va remporter le prix Pulitzer en 1948 ainsi que le Drama Critics Award. Alors la pièce va bientôt être traduite en 19 langues et jouée sur toutes les grandes scènes mondiales. Donc en 1951, Elia Kazan adapte la pièce au cinéma. Et donc où Brando il reprend le rôle tenu sur scène et c'est Vivian Leigh qui va jouer le rôle de Blanche Dubois. Vous savez, Vivian Leigh, c'est elle qui joue, c'est Scarlett dans Autant n'importe le vent.
Tout à fait.
Alors, le film fait un triomphe et il est nommé pour 12 Oscars, dont celui du meilleur film.
Trop fort, hein, parce que les Oscars, le prix Pulitzer, on peut juste rappeler au passage que c'est la récompense, tous les arts confondus, c'est la plus haute récompense aux États-Unis.
Alors, en 24 ans, 19 pièces de Tennessee Williams sont créées à Broadway. Comme ce fut le cas pour un tramway, Hollywood achète les droits et adapte au cinéma les plus grandes pièces de Tennessee Williams, comme La chatte sur un toit brûlant, qui a aussi le prix Pulitzer en 1955, et porté à l'écran dans une réalisation de Richard Brooks en 1958 avec Elizabeth Taylor et Paul Newman dans les rôles principaux.
Oui, puis à Paris, ça a été joué par Jeanne Moreau au théâtre, le personnage de Margaret.
Donc en 1959, Mackenzie tourne Soudain l'été dernier avec Elizabeth Taylor, Catherine Hepburn et Montgomery Clift, là, dont j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Et donc en 1964, sort sur les écrans La nuit de l'iguane, réalisé par John Huston avec Richard Burton et Ava Gardner.
Wow.
Alors, propriété interdite de Sidney Pollack, sort en 66 avec Natalie Wood et Robert Redford, d'après une pièce en un acte de Williams aussi. Donc, toutes ces adaptations au cinéma contribuent évidemment largement à la renommée internationale de l'écrivain, hein, qui est couvert de gloire. De gloire.
Oui, même, hein. comme je le disais tout à l'heure, finalement, tu viens de citer la nuit de l'iguane. En fait, c'est son dernier grand succès, mais il lui reste 20 ans à vivre. C'est ça qui est étonnant. Hein. Bah, après, ouais. il va continuer à écrire, mais c'est passé, quoi, un peu. Ouais, c'est étonnant. Hein. Donc, ça va peut-être pas être les années les plus faciles pour lui.
Alors, là, on fait un petit pas de côte.